Chapitre 13. L'incendie. Partie 1. Tous deux debout sur le seuil du pensionnat, Eleanor Wimbley et Albus Dumbledore contemplaient la grande fête qui commençait dans la clairière du pensionnat Wimbley. Il était environ 19h, mais il faisait déjà nuit noire. La façade en pierre blanche du pensionnat Wimbley se dressait derrière eux et au-dessus de l'imposante porte en chêne flottait une immense banderole pourvue des inscriptions « Fête de Noël du pensionnat Wimbley, 20e anniversaire ». Dumbledore portait son plus beau manteau rouge brodé d'or et un chapeau assorti. Il avait soigneusement coiffé sa longue barbe argentée qui lui descendait jusqu'à la taille et les boucles de ses chaussures à bout pointu étaient en forme d'étoile. Ses joues étaient roses, de la buée s'échappait de ses lèvres à chaque expiration et derrière ses lunettes en demi-lune, ses yeux bleus étincelaient de malice. À côté de lui, Eleanor Wimbley était tout aussi apprêtée. Elle portait également un long manteau de velours et des chaussures à boucles, mais ceux-ci étaient d'une belle couleur violette. Un grand hibou argenté, symbole du pensionnat, était brodé sur sa poitrine et étincelait dans la nuit froide de décembre. Ses innombrables tresses noires étaient piquées de perles scintillantes et des boucles d'oreilles rondes étaient suspendues à ses oreilles. Eleanor, promettez-moi que vous ne m'en voulez pas d'avoir refusé de me déguiser en Père Noël, supplia Dumbledore. Eleanor Wimbley lui répondit par un sourire amusé. Je comprends tout à fait, Albus, ne vous en faites pas. C'était une simple idée qui aurait certainement fait plaisir aux plus jeunes enfants, mais ce n'était pas indispensable. Oh, je vous assure, cela ne m'aurait pas déplu. Mais la plupart de vos pensionnaires sont de futurs élèves de Poudlard, et je crains que cela ne nuise à mon autorité future. Eleanor rit de bon cœur. Cependant, ça n'empêche pas certains enfants de me regarder avec curiosité ou de me montrer discrètement du doigt, remarqua Dumbledore. Vous savez, depuis que je leur ai parlé de la poudre de cheminette, ils sont encore plus persuadés que le Père Noël existe bel et bien. Alors, quand ils m'ont demandé s'ils seraient de la partie ce soir, je n'ai pas eu le courage de nier. Ils croient sans doute que vous êtes là incognito. Dumbledore ne put s'empêcher de sourire à son tour. « Très bien, » dit-il. « Le seul problème, c'est que je vais être obligé de partir plus tôt en prétendant devoir distribuer des cadeaux à travers le pays. » À leurs pieds, dans la clairière du pensionnat Wimbley, la fête de Noël commençait à peine. Eleanor avait mis plusieurs jours à tout préparer, aidée par son frère Eric, par le gardien William et surtout par la vingtaine d'enfants qu'elle hébergeait au pensionnat. Ils avaient tous mis du cœur à l'ouvrage. Les plus adroits avaient tressé des aiguilles de pin en couronne et en étoile. D'autres avaient fabriqué des petits sachets de thé à la cannelle pour les offrir aux invités. Et les plus jeunes avaient saupoudré de la poudre argentée sur les marches qui entouraient le pensionnat. Un immense sapin occupait le centre de la clairière, couvert d'adorables décorations fabriquées par leurs soins. Livia, une des pensionnaires âgée de 5 ans, qui ne pouvait pas s'empêcher de faire exploser les objets qu'elle touchait, y avait même suspendu quelques-uns de ses trophées. Des morceaux de métal tordus en spirale, ou bien des boules joliment explosées en forme d'étoile. Autour de l'immense sapin, ils avaient dressé quelques tentes violettes qu'un des pensionnaires avait démesurément agrandies sans le faire exprès et paraissaient, de fait, complètement bancales. Les gros crabes qui avaient l'habitude de tondre la pelouse du pensionnat se cognaient dedans et exprimaient leur mécontentement en faisant claquer leurs énormes pinces autour des tentes, ce qui donnait l'impression qu'ils faisaient un numéro de claquettes. Dans ces tentes, du vin chaud et du chocolat fumant étaient servis dans des coupes. William Penswick distribuait des crêpes et des gaufres en essayant d'empêcher les enfants de plonger leurs mains dans le chocolat fondu. Mrs. Penswick, la sœur du gardien, propriétaire de la librairie Le Chat qui sourit, et accessoirement très chère amie d'Eleanor Wimbley, distribuait de superbes livres pour enfants aux petits pensionnaires. Et dans la plus grande, les enfants revêtaient leurs déguisements pour le spectacle de Noël, un spectacle qu'ils avaient répété avec ardeur dans l'objectif de le montrer à leurs parents ce soir-là. À vrai dire, pour la plupart d'entre eux, la véritable épreuve ne serait pas de jouer ou de chanter, mais plutôt de ne pas créer d'incident pendant la représentation. Eleanor avait délivré à chacun de précieux conseils. Livia avait pour mission de se défouler pendant les 5 minutes qui précédaient son numéro d'acrobate. Jimmy ne devait pas regarder le sol pour éviter de faire pousser l'herbe à une vitesse vertigineuse, et ainsi de suite. Quand je pense qu'il y a 20 ans, de mystérieux sauveteurs déposaient Adam sur le seuil de mon pensionnat, murmura Eleanor. Oui, je me souviens de cette étrange veillée, répondit Dumbledore. Quel drame, cet incendie! Et en même temps, quel miracle énigmatique qu'Adam en ait réchappé! Fumsec l'a sauvé, sourit Eleanor, au même titre que ceux qui l'ont amené ici. Je ne vous remercierai jamais assez d'être venu avec votre phénix pour soigner ses brûlures. Regardez quel beau jeune homme il est devenu aujourd'hui. Tous deux jetèrent un regard discret à Adam Clearing, qui se trouvait un peu à l'écart des autres invités. Il était, lui aussi, habillé de violet et contemplait les murs du pensionnat avec émotion. Il pense sans doute à la même chose que nous, commenta Dumbledore. Ses parents doivent lui manquer terriblement. Il est toujours un peu mélancolique le soir de Noël, évidemment, admit Eleanor. Les premières années, c'était en grande partie pour lui que je dépensais autant d'énergie à célébrer cette fête. Il était nécessaire de lui changer les idées. C'était une nuit tragique, mais nous l'avons tout de même sauvé en dépit de la puissance de ses dangereux meurtriers. Tel le phénix, l'espoir renaît de ses cendres, cita Eleanor. C'était ce que disait ce petit message laissé par ceux qui l'ont extrait de l'incendie. Je me demande si nous connaîtrons un jour leur identité. L'avenir nous le dira peut-être, conclut Dumbledore. Les invités à la fête de Noël commençaient à peine à arriver. Il s'agissait surtout des familles des pensionnaires, des moldus pour la plupart, dont certains étaient déjà hébergés au sein de l'établissement depuis le début des vacances. Mais il y avait également beaucoup d'anciens pensionnaires qui venaient saluer Eleanor Wimbley et prenaient beaucoup de plaisir à revenir sur les lieux de leurs plus beaux souvenirs d'enfance. Et enfin, des familles dont Eleanor Wimbley n'avait jamais hébergé les enfants, mais qu'elle avait aidé d'une manière ou d'une autre. Chaque nouvel arrivant ne manquait pas de venir la saluer. « Ah, Mrs. Wimbley, mille merci pour ces chaussures gravitationnelles. Notre petite m'a dit à arrêter de se promener dans les airs au-dessus de notre jardin. Et votre sortilège d'oubli-tout, oubliette, pardon, a été remarquablement efficace. Les voisins ne se souviennent d'absolument rien. Comme Noah a l'air heureux dans votre établissement, Mrs. Wimbley. Lorsqu'il a été refusé de toutes les écoles maternelles des environs, j'ai cru qu'il ne retrouverait jamais le sourire. Regardez-le, c'est un miracle. Je vois que vos pensionnaires sont aussi souriants qu'il y a 15 ans, Eleanor. Que de beaux moments passés ici, et comme c'est bon de vous revoir après tout ce temps. Eleanor Wimbley accueillait chaque remerciement avec un grand sourire et les inscrivait tous dans sa mémoire afin de reconstituer son réservoir de gratitude, un carburant dont elle avait particulièrement besoin depuis quelque temps. Elle disait toujours qu'elle organisait cette fête pour que tous ceux qu'elle avait aidés puissent se réunir et puissent également rencontrer Albus Dumbledore, le directeur de l'école où serait admis leur enfant. C'était vrai, mais c'était aussi pour elle, afin de trouver le courage de continuer à se battre contre tous ceux qui souhaitaient sa perte. Et en contemplant les mines réjouies qui s'alignaient devant elle, Eleanor se sentait plus déterminée que jamais. Autour d'elle, tout le monde riait, tout le monde s'émerveillait. On aurait pu se croire à une autre époque, une époque gaie et insouciante, où le nom de Voldemort n'avait pas encore imprégné les esprits. Mais malgré tout, certaines choses leur rappelaient que la guerre faisait rage au dehors. En effet, au milieu des invités souriants, de nombreux aurores et plusieurs membres de la brigade de police magique déambulaient, aux aguets, le plus discrètement possible. Lorsqu'on regardait la grande étoile argentée posée sur la cime du sapin, on ne pouvait pas ignorer le dôme bleu et scintillant qui signalait la présence du puissant sortilège de protection qui entourait le pensionnat. De même, plusieurs objets anodins étaient disposés un peu partout dans la clairière, pourvus du même écriteau « Ne pas toucher, sauf en cas d'urgence ». Il s'agissait de portes au loin prévues pour évacuer les enfants et les parents moldus le plus rapidement possible en cas d'attaque. Albus Dumbledore l'attira de ses pensées. « Il est toujours appréciable de côtoyer quelques moldus de temps en temps, n'est-ce pas » fit-il remarquer avec malice. « Regardez comme ils s'émerveillent de tout. Un simple sortilège de lévitation les laisse sans voix. Vraiment, c'est très charmant. » « Je crois qu'Arthur Weasley est d'accord avec vous, » sourit Eleanor en désignant un jeune homme aux cheveux d'un roux flamboyant qui serrait la main de parents moldus avec enthousiasme. « Tiens, je ne l'avais pas vu. J'ignorais que ce jeune homme avait eu recours à vos services. » Ce n'est pas le cas. C'est un des rares sorciers qui est là dans le seul but d'apporter son soutien au pensionnat. Depuis quelques années, il m'envoie régulièrement des lettres pour me proposer son aide. Je peux vous assurer qu'il mérite largement son invitation. Oh, pour ça, je veux bien vous croire. Lui et sa femme Molly sont pleinement engagés aux côtés d'Adam Clearing dans la lutte pour la protection des moldus. En parcourant les invités des yeux, Eleanor vit 4 adolescents âgés de 15 ans en train d'aider quelques enfants à enfiler leur déguisement. Ah, Albus, j'aperçois Remus et ses 3 amis. N'avait-il pas peur de quitter Poudlard par les temps qui courent ? Peur ? Non, croyez-moi, ils ne craignent pas le danger. Lorsqu'Alastor les a surpris en train d'écouter aux portes, j'ai eu cette idée de les embaucher pour vous aider à gérer l'excitation des enfants pendant la soirée. Puis j'ai voulu y renoncer en raison du risque d'attaque. Mais finalement, ce sont eux qui ont insisté pour venir. Ils tenaient absolument à voir votre pensionnat et à nous aider à protéger ces enfants en cas de problème. Ils savent qu'en cas d'attaque, ils seront évacués comme tous les autres enfants, n'est-ce pas ? Bien sûr. Ils aideront les plus jeunes à se rassembler près des portes au loin et partiront avec eux. Êtes-vous sûr qu'ils respecteront ces consignes à la lettre ? Ils m'en ont fait la promesse et je leur fais entièrement confiance. Très bien, très bien. En tout cas, ils ont l'air de bien s'entendre, remarqua Eleanor en voyant les 4 adolescents rire aux éclats. Remus m'a parlé d'eux plusieurs fois. Redites-moi lequel est Sirius ? C'est celui qui a les cheveux bouclés. Le jeune homme qui porte 2 enfants sur ses épaules pour impressionner les autres s'appelle James, et le plus petit s'appelle Peter. C'est bien cela, James, Peter et Sirius, le cousin d'Andromeda, dit Eleanor. Tiens, ça me fait penser, je n'ai pas vu Ted arriver. Au moment où elle prononçait ces mots, 3 personnes entrèrent dans la clairière. Une jeune femme aux cheveux noirs et bouclés, accompagnée d'un jeune homme blond qui portait dans ses bras une petite fille aux cheveux bleus électriques. Tous les 3 s'approchèrent d'Eleanor à grands pas. Bonjour Eleanor et bonjour professeur Dumbledore, les salua Andromeda. Dumbledore lui adressa un petit signe de tête courtois et Eleanor la serra dans ses bras avec affection. Soyez les bienvenus, les salua Eleanor avec tendresse. Eleanor, joyeux Noël! Désolée du retard, Nymphadora nous a donné du fil à retordre, s'exclama Ted Tonks sur un ton jovial en désignant un énorme trou aux bordures brûlées sur son horrible pull de Noël. « Aucun problème, Ted, » assura Eleanor. « Je suis enchantée de vous voir tous les 3. Et moi donc, j'attends cet événement avec la même impatience tous les ans. Comment vas-tu ? » ? « Un peu anxieuse, je l'avoue, » répondit Eleanor Wimbley. « Tout le monde a essayé de me faire annuler cette fête, de peur que nous soyons attaqués. Mais pour les 20 ans du pensionnat, je tenais vraiment à marquer le coup. Et puis, en ces temps difficiles, je crois que nous avons tous besoin de nous mettre un peu de baume au cœur. » « Tout à fait d'accord, » approuva Ted. « Quoi qu'il arrive, nous te faisons entièrement confiance en ce qui concerne la sécurité. Avec le professeur Dumbledore et toi à nos côtés, les enfants ne courent aucun danger, j'en suis persuadée. » Puis il se tourna vers le bâtiment circulaire en pierre blanche, dont la grande porte en chêne était sculptée en bas-relief. « Je ne peux pas croire que nous avons construit ce pensionnat il y a déjà 20 ans, » dit Ted. Je me souviens comme si c'était hier du terrain vague, couvert de blocs de pierre blanche qui se tenaient ici, lorsque nous sommes arrivés. La première année, nous n'étions que 3 pensionnaires. Et regardez, les voilà 20. C'est incroyable, tout simplement incroyable. Eleanor regarda son premier pensionnaire avec émotion. Leur rencontre était ce qui avait décidé Eleanor à construire ce pensionnat. Chacun avait bouleversé la vie de l'autre, et de ce fait, tous les 2 étaient liés à jamais. « Hé, doucement, Dora !» s'exclama Ted en sortant de sa rêverie. Dans ses bras, Nymphadora se tortillait vigoureusement pour s'échapper des bras de son père. « Papa, je veux aller jouer !»« Oui, Dora chérie, bien sûr, mais avant, tu dis bonjour à Eleanor. » Nymphadora se résigna à se tenir tranquille quelques secondes. Elle tourna vers Eleanor Wimbley son visage pâle en forme de cœur et leva sur elle ses yeux sombres et brillants. Immédiatement, ses cheveux changèrent de couleur pour un rose très doux. « Bonjour, Léanor, » dit-elle d'une voix fluette. « Bonjour, Nymphadora, » dit Eleanor en se penchant sur elle. « Tu as encore grandi depuis la dernière fois. » Nymphadora se tourna à nouveau vers son père. « Je peux aller jouer ?» Ted rit de bon cœur et la posa à terre. « Fais attention à toi, Nymphadora, ne te blesse pas. murmura tout de même Andromeda, qui n'avait pas du tout l'air aussi rassurée que son mari. Sans l'écouter, la petite fille descendit du perron de pierre blanche où Eleanor et Dumbledore se tenaient depuis le début des festivités, courut vers les autres enfants qui jouaient autour de l'immense sapin de Noël et se mêla à eux sans hésiter. « Nymphadora a l'air débordante d'énergie, » sourit Eleanor. « Je ne vous le fais pas dire. Avec elle, chaque jour est une nouvelle aventure. » À côté de Ted, Andromeda tendait le cou pour garder Nymphadora dans son champ de vision. « Ne t'en fais pas, je vais la surveiller, » lui dit Ted. Et il s'éloigna pour se rapprocher du groupe d'enfants. Sur le perron de pierre blanche, Dumbledore avait été accosté par des parents moldus qui souhaitaient avoir des informations sur Poudlard. Eleanor, elle, en profita pour demander à Andromeda comment elle se portait. « Élever un enfant est plus difficile que je ne le pensais, » lui confia Andromeda. « Je m'inquiète en permanence. Et puis, mon éducation stricte me poursuit. Parfois, je me surprends à lui répéter ce qu'on m'a appris lorsque j'étais petite. Oh, pas toutes ces horreurs à propos de la pureté du sang, bien sûr, mais le reste. Le fait de devoir être douce, calme, docile. Je m'en veux. Et en même temps, je n'arrive pas à m'en défaire. » Eleanor désigna Nymphadora qui s'était déjà parfaitement intégrée au pensionnaire et Ted, qui l'admirait de loin, un grand sourire vissé sur les lèvres. « Elle semble très débrouillarde, » commenta Eleanor. « Je n'ai pas l'impression que vous la brimiez pour quoi que ce soit. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, Andromeda. Regardez comme ils ont l'air heureux tous les deux. Vous pouvez être fière de ce bonheur-là, car il existe en grande partie grâce à vous. » Andromeda lui adressa un sourire reconnaissant. C'est ce que me dit Ted en permanence. Et je suis incroyablement heureuse, moi aussi. Tellement heureuse que j'ai du mal à croire que cette félicité puisse durer. Eleanor posa sur son épaule une main rassurante. Cela, nous ne pouvons pas le prédire. L'instant présent est la seule chose que nous possédons vraiment. Alors tâchons d'en profiter, proposa Eleanor. Andromeda acquiesça en souriant, un peu plus détendue. Il n'y a pas que Nymphadora qui me tracasse ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. Eleanor devina immédiatement qu'Andromeda parlait de Narcissa et de l'invitation qu'Eleanor avait glissée dans sa poche quelques mois plus tôt. Évidemment, elle n'avait reçu aucune réponse de sa part. « Elle me manque, » soupira Andromeda. « Et ma mère me manque aussi. Parfois, j'aimerais qu'elle soit là, toutes les deux, pour m'aider, me rassurer. « Est-ce que vous l'avez vue ?» demanda Andromeda. « Non, je ne l'ai pas vue. Et pensez-vous qu'elle viendra ce soir ?»« Je l'espère, Andromeda, je l'espère. » À ce moment-là, Narcissa ne se trouvait qu'à quelques centaines de mètres, au-delà de la muraille de Tantagriffe. Elle était assise dans une voiture sans conducteur, coincée sur la banquette arrière et écrasée contre la portière par le corps massif de Piscus Crabbe qui masquait son ami Daisy à sa vue. Au fur et à mesure que leur voiture s'enfonçait dans la forêt et se rapprochait du pensionnat Wimbley, Narcissa avait l'impression que l'air se raréfiait autour d'elle. Elle maudissait Eleanor Wimbley de lui avoir remis cette invitation. Elle maudissait Viragoyle de lui avoir offert ses dragons. Elle maudissait Piscus Crabbe, Rodolphus Lestrange et Abraxas Malfoy d'avoir ainsi comploté contre elle. À plusieurs reprises au cours du trajet, elle avait songé à jeter son sifflet par la fenêtre. Mais l'œil entièrement noir de Piscus Crabbe semblait être fixé sur elle en permanence et l'en dissuader. Ah, nos amis attendent votre signal, dit Piscus Crabbe en désignant la forêt noire et épaisse qui les empêchait de voir à plus de 3 mètres. Et en effet, en regardant attentivement, Narcissa vit plusieurs silhouettes obscures se mouvoir dans les buissons. Elle aperçut même l'éclat argenté d'un masque de mange-mort. Elle essaya de ne pas penser à Lucius, qui devait être lui aussi tapi quelque part autour du pensionnat, en train de se préparer à commettre un horrible assassinat. Et soudain, elles aperçurent, au-dessus de la cime des arbres, le mur de Tantagriffe qui marquait l'entrée du pensionnat Wimbley. Aussitôt, la voiture s'arrêta. « Je vous abandonne ici, » dit brusquement Piscus Crabbe. « Il doit y avoir des aurores à l'entrée. Allez-y, et dès que vous serez à l'intérieur, sifflez vos deux bestioles. » Si tout se passe comme prévu, elles rappliqueront et feront exploser ce satané sortilège de protection. Ensuite, nous n'aurons plus besoin de vous. Les mange-morts feront le reste. Mais quand nous aurons fait ça, comment allons-nous sortir de là ? Demanda Narcissa d'une voix tremblante. Ça, ce n'est pas mon problème, répondit Piscus Crabbe en la poussant au dehors pour sortir. Il sortit, puis força Narcissa à remonter dans la voiture. « Allez, en avant !»« Et ne vous avisez pas de vous enfuir, je vous garde à l'œil !» La voiture redémarra et Piscus Crabbe disparut dans l'ombre. Immédiatement, Daisy et Narcissa se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, terrorisées. « Oh, Sissi, comment va-t-on faire ?» La voiture emporta les deux amies, serrées l'une contre l'autre, jusqu'au mur de tentagriffes qui entourait la clairière du pensionnat Wimbley. Un homme et une femme se trouvaient juste devant, baguette brandie. À l'approche de la voiture, l'homme fit un geste de la main et les phares cessèrent de les éblouir. Ils marchèrent vers la voiture et à leur approche, les fenêtres de la voiture s'ouvrirent. « Sortez du véhicule !» ordonna la femme d'une voix tendue. « Et présentez votre invitation !» Narcissa et Daisy sortirent docilement et Narcissa sortit de sa poche le parchemin chiffonné qu'Eleanor Wimbley avait fourré dans sa poche le jour où elle lui avait rendu visite avec Lucius. Maintenant, elle regrettait amèrement de l'avoir accompagnée. Au moment où elle tendait le parchemin à l'aurore, le mur de tentagriffes qui se trouvait derrière eux s'entr'ouvrit légèrement, plus étroitement que lors de la première visite de Narcissa. La jeune Aurore, une femme aux traits asiatiques, passa le long des vêtements de Daisy un capteur de dissimulation qui ne se déclencha pas. Alors que la jeune femme s'approchait d'elle, Narcissa sentit un picotement dans la nuque qui lui donnait l'impression extrêmement désagréable d'être observée. Elle se retourna brusquement vers la forêt, derrière elle, mais n'y vit que des feuilles mouvantes et de l'obscurité. « Y a-t-il ? » demanda l'homme en regardant dans la même direction. Narcissa secoua la tête. « Non, je croyais avoir entendu... Non, ce n'est rien. » L'Aurore lui sourit avec amabilité. « Tout le monde est un peu à cran en ce moment. Mais rassurez-vous, vous ne risquez rien. Après tout, si vous savez qui était vraiment aussi puissant qu'on le dit, il aurait tenté quelque chose pendant la fête nationale des sorciers, non ? Moi, je suis persuadée qu'il a renoncé, ou qu'il est mort. » Quelque part derrière elle, dans l'obscurité de la forêt, Narcissa crut entendre un ricanement. « Fenwick, ne dis pas ça !» le rabroua sa jeune collègue. « Tu n'en sais rien !»« Tout ce que je sais, c'est que nous sommes le soir du 24 décembre et qu'au lieu de fêter Noël avec mes enfants, je suis en train d'attraper une pneumonie au milieu de la forêt !» grogna le dénommé Fenwick. « Et d'ailleurs, je ne vais pas tarder à aller faire une petite pause au chaud. Je commence à en avoir assez. » La jeune femme haussa les épaules, visiblement exaspérée. « Ne faites pas attention, mesdames, » dit-elle. « Plus que jamais la prudence est de mise. Je vous laisse rejoindre les autres invités. Amusez-vous bien. » Narcissa et Daisy la remercièrent d'une toute petite voix et s'approchèrent du mur de tentagriffes. « Il ne s'ouvre plus complètement, » les informa l'Aurore. Vous aurez juste assez d'espace pour vous faufiler. Quant au sortilège de protection, comme les tentagriffes, il détectera votre identité et votre invitation. Vous le traverserez sans peine. » Les épines emmêlées devant elles se dénouèrent et s'écartèrent sur quelques mètres, leur laissant à peine la place pour se faufiler. « Allez-y !» les encouragea l'Aurore. Et elles s'enfoncèrent au milieu des épines grosses comme des lames de couteau qui leur frôlaient les joues. Daisy ouvrait la marche et Narcissa lui serrait le poignet aussi fort qu'elle le pouvait. Au fur et à mesure qu'elles avançaient, les épines se refermaient derrière elles, si bien qu'elles avaient l'impression oppressante de se trouver au milieu d'un océan de griffes végétales. Au bout de quelques mètres, elles parvinrent à l'écran bleu et scintillant qui signait la présence du sortilège de protection. Daisy tendit la main vers la paroi, un peu craintive, et Narcissa serra son invitation dans son poing. La main de Daisy traversa la paroi avec un léger frémissement, sans effort. Il en fut de même pour le reste de son corps, puis Narcissa l'imita et eut l'impression de traverser un nuage de vapeur chaude en passant de l'autre côté du sortilège de protection. « Ça y est, on est entré, » murmura Narcissa. « Oh, on n'aurait jamais dû accepter de faire ça. On aurait dû s'échapper de la voiture. Avec Piscus Crabbe à nos trousses ? Si, si, on n'avait pas le choix. Mais ne t'en fais pas, on va trouver une solution. Un instant. « Nous y sommes presque. » Narcissa vit de la lumière filtrer à travers les tentagriffes et les deux amies débouchèrent dans la clairière du pensionnat Wimbley, illuminée par la douce lumière bleue diffusée par le dôme du sortilège de protection et par les guirlandes lumineuses qui montaient à l'assaut de l'immense sapin de Noël. Personne ne vit Daisy et Narcissa, car elles étaient juste derrière un arbre couleur rouille et son ombre les cachait à la vue des autres invités. De plus, ces derniers ne regardaient absolument pas dans leur direction, car ils étaient tous captivés par le spectacle que leur donnaient les enfants. Visiblement, Eleanor Wimbley leur avait donné quartier libre pour choisir leur déguisement, et ils s'en étaient donnés à cœur joie. Certains enfants étaient ainsi déguisés en sorciers, en joueurs de Quidditch ou en Aurore, et d'autres en moldus, en joueuses de foot, en présentateurs télé, en danseurs ou en spationautes. D'autres n'étaient pas déguisés du tout. Ils venaient d'achever un numéro de mime sous un tonnerre d'applaudissements et entamaient un adorable numéro d'acrobatie. Une fierté indicible était lisible sur leurs visages, tout comme sur ceux des parents qui les acclamaient. En les observant, Narcissa fut envahie par un mélange de dégoût et d'envie. Un mélange très désagréable. Elle tripota nerveusement le sifflet vert autour de son cou et pensa aux deux dragons qui devaient être en train de se reposer près des falaises irlandaises. Elle se souvint de la puissance des deux créatures, des gerbes de terre que ceux-ci soulevaient au moindre mouvement, des pics écaillés qui hérissaient chacun de leurs membres. Même s'ils ne voudraient aucun mal à ceux qui étaient présents, ils feraient probablement de nombreux blessés. C'était inévitable. Mais surtout, que ce soit par les flammes qu'ils crachaient ou avec leurs griffes tranchantes, ils réduiraient en miettes le sortilège de protection. Et tous les mange-morts étaient de l'autre côté de la haie, prêts à bondir dès que Narcissa leur en donnerait l'occasion. Et dire qu'il leur suffirait de souffler dans le sifflet pour livrer le pensionnat à une armée d'assassins. Avoir ce pouvoir-là lui procurait une sensation étrange. Effrayante, certes, mais également grisante. « Si, si, tu as vu qui est là ?» dit Daisy d'une voix blanche. Elle montrait à Narcissa la foule des spectateurs qui poussaient des exclamations réjouies devant le numéro des enfants. Narcissa aperçut un petit groupe d'adolescents un peu à l'écart, en train de rire. Sirius, dit Narcissa catastrophée. Elle s'adossa à l'arbre, le cœur battant à tout rompre. Il ne faut surtout pas qu'il me voie. Mais Daisy secoua la tête. Je ne parlais pas de Sirius, murmura-t-elle d'une voix de plus en plus étranglée. Regarde, vers la grosse tente violette un peu bancale. Narcissa risqua un regard dans la direction que lui indiquait Daisy, et elle crut défaillir. Andromeda. Andromeda, sa sœur, sa grande sœur chérie, sa maudite sœur qui l'avait si cruellement abandonnée, était là, à quelques mètres d'elle, rayonnante de beauté et de bonheur, applaudissant à tout rompre les enfants qui se donnaient en spectacle devant elle. L'homme blond qui se tenait à côté d'elle ne pouvait être que son mari. Narcissa ne l'avait jamais vu, mais chaque sourire qu'ils s'échangeaient était la preuve irréfutable qu'ils s'aimaient d'un amour simple et serein, confiant et inaltérable. Ils s'embrassaient, s'effleuraient, se parlaient avec des gestes doux et tendres. Mais Narcissa ne prêtait aucune attention à tous ces échanges écœurants, car en réalité, elle n'avait Dieu que pour la ravissante petite fille aux cheveux roses qui était perchée sur les épaules de Ted. Nymphadora. Ce qui avait été jadis le prénom de la poupée de chiffon qu'Andromeda lui avait offerte était désormais le prénom de son enfant. Un enfant qui avait été fait loin d'elle, à son insu. C'était comme si Andromeda avait volé cette petite fille à Narcissa, comme si, par cette naissance, Andromeda avait égoïstement repris tout ce qu'elle avait donné à Narcissa, depuis le début. Et chaque mouvement que la petite fille amorçait lui enfonçait un coup de poing dans l'estomac. Ce visage en forme de cœur, ses yeux sombres et brillants, ses longs cils adorables, ses cheveux colorés, ses petites mains qui se frappaient avec maladresse pour applaudir, ses cuisses potelées serrées autour du cou de son père. « Il paraît qu'elle est affreuse », avait dit Bellatrix. Narcissa aurait aimé qu'elle le soit, mais en réalité, elle n'avait jamais vu d'aussi bel enfant. Ainsi donc, Andromeda, qui avait décidé d'être égoïste, de renier son propre nom ainsi que tout son passé, avait obtenu avec une rapidité fulgurante tout ce dont Narcissa avait rêvé et que le ciel refusait jusqu'ici de lui accorder. Et elle, qui avait fait tous les choix raisonnables, qui s'était toujours tenue éloignée des innombrables personnes et activités que leur père leur avait défendues, elle qui n'avait jamais désobéi, n'avait récolté que la tristesse qui montait de son ventre vide et stérile. À quoi bon alors ? À quoi bon fournir tous ces efforts ? À quoi bon sourire poliment et se montrer docile ? À quoi bon contenir la colère qui bouillonnait en elle si elle ne récoltait que de la solitude et de la jalousie ? À ses yeux, elle avait toujours bien agi. Elle n'avait jamais douté de la légitimité de ses actes. Elle avait toujours été persuadée d'accomplir son devoir, de faire ce pour quoi elle était née. Tout cela lui semblait juste, et jusqu'ici, elle avait gardé l'espoir d'en être un jour récompensée. Mais l'existence de Nymphadora venait de lui démontrer que tous ses efforts étaient vains, que la prétendue justice du monde n'était qu'une vaste supercherie. À cet instant, derrière le tronc énorme de l'arbre couleur rouille, dans le cœur de Narcissa, quelque chose se brisa, silencieusement et définitivement. La conviction que les bonnes actions étaient récompensées et les fautes sévèrement punies. Narcissa serra son sifflet au creux de son poing, trop en colère pour remarquer qu'Andromeda se retournait de temps à autre pour surveiller les nouveaux arrivants, sans imaginer une seule seconde que c'était elle qui était attendue. Son champ de vision tressauta. Et c'est alors qu'elle remarqua que Daisy lui secouait l'épaule depuis plusieurs secondes. « Si, si, ne restons pas ici !» gémit Daisy. Narcissa, agrippée à l'écorce striée de l'arbre qui les camouflait à la vue de tous, n'arrivait pas à détacher son regard d'Andromeda et de sa famille, et Daisy dut la forcer à se retourner. « Hé, regarde-moi !»« Oh là là, je n'aurais pas dû te dire ça. Si, si, écoute-moi !» Les yeux dans le vague, Narcissa comprit alors pourquoi Bellatrix était si difficile à raisonner lorsqu'elle était en colère. Assourdie par sa propre souffrance, elle était incapable d'entendre les supplications de Daisy. Elle ne ressentait rien, si ce n'était l'envie furieuse de détruire tout le bonheur insupportable qui s'étalait sous ses yeux. « On le fait, » dit-elle. Puis elle porta la main à son sifflet et l'approcha de ses lèvres.